ainsi que sur abonnement, France Culture Papier, une coédition France Culture.
Radio France réunit les plus fameux standards de la comédie musicale. Un week-end autour de Judy Garland, George Gershwin, Stephen Sondheim, Cole Porter et Leslie Caron. Les 9 et 10 juin au 104, venez entendre les mélodies du bonheur pour le dernier week-end de concert Radio France. Renseignements 01 56 40 15 16 et concert.radiofrance.fr.
France Inter, la différence.
Et c'est l'heure de la basse, j'y suis avec Daniel Mermet et son répondeur.
Arrêtez avec vos bruits de fond là de... Daniel, quand tu parles d'un sujet, il y a un bruit de fond, souvent du bruit de fond de café, là, avec des gens qui parlent, on ne comprend rien. Et plusieurs fois, je suis obligé d'arrêter, parce que ça m'énerve et ça me fait chier. Je préfère les oiseaux, hein, quand tu mets des oiseaux en bruit de fond, c'est quand même du naturel. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à Paris, vous êtes sûrement habitué à entendre que du bordel, mais tu me diras, même à la campagne, des fois, c'est pas mieux. Mais bon, les oiseaux, c'est bon, les oiseaux, ça va, ça passe.
Il est quand même étonnant, ce BHL. À chaque fois qu'on le voit sur un plateau télé, à chaque fois qu'on l'entend à la radio, à chaque fois qu'on le lit dans un journal, on se dit « ce coup-ci, c'est bon ». Il ne pourra jamais être plus prétentieux, plus présomptueux, plus fat, plus suffisant, plus pédant, plus hautain, plus mégalo, plus caricatural. Et le lendemain ou le surlendemain, on le revoit, on le réécoute, on le réentend, on le relit, dans un autre journal, sur un autre plateau, et on se dit, ah bah finalement, il réussit encore à être encore un peu plus prétentieux, encore un peu plus présomptueux, encore un peu plus suffisant, pédant, etc. Mais le plus inquiétant, c'est qu'à chaque fois, ces intervieweurs, dans 80% des cas, se montrent un peu plus serviles.
Alors comme ça, Daniel, tu crois encore à toutes ces conneries ? Hein, la révolution et tout, et tu continues à nous bassiner avec ça. Mais c'est quoi ? C'est quoi ces gens qui croient encore à la révolution en 2012 ? Moi, je connais un Canadien, on n'a rien à foutre hein, de la révolution, tu sais quoi ? Il a même dépecé quelqu'un. Et puis, je connais aussi des gens qui, pendant la révolution française, ils étaient absolument pas d'accord pour qu'on fasse la révolution, et puis encore moins pour qu'on guillotine le roi et la reine. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, eh ben nous, le jubilé, on n'en a pas. Hein. Alors que les Anglais, ils scoltinent pendant 3-4 jours la reine d'Angleterre qui fait la belle et qui dépense à tort et à travers tous les sous du royaume. Alors il y en a peut-être qui y croient pas, il y a aussi des cons qui y croient encore, et je sais pas qui c'est qui a raison, mais je suis pas sûre que ce soit le monsieur qui l'a laissé son message débile là, aujourd'hui. Allez, bon courage.
Bonjour à tous. Dans le Pas-de-Calais, on bouge. Il y a maintenant deux repères, celui d'Ena Beaumont qui vient de se créer, et qui se réunit jeudi aussi, et le nôtre à Monchy-Breton. On a donc réunion à Monchy-Breton ce jeudi à partir de 18h30 chez Tartous et compagnie. Nous parlerons des législatives, de la dette, du Québec. Les sujets ne manquent pas et on vous espère nombreux.
Bonjour, je suis québécoise de souche, je vis en France depuis 77. Je suis de très près les événements au Québec par le biais de ma famille qui me tient régulièrement au courant. Donc voici ce que ma sœur m'envoie concernant ces manifs à Montréal. Amir sortait de l'Assemblée, entendant le bruit des casseroles. Il s'est dirigé devant pour aller rejoindre les manifestants et s'est mis en marche. Il a décidé de marcher avec celui-ci. La manifestation a été déclarée illégale, les gens marchaient avec leurs casseroles. Les policiers ont pris les manifestants en souricière. Ils ont été menottés, on les a fait monter dans un bus. Contravention pour une infraction au code de la route. Bizarrement, tout le monde a été menotté pour une infraction au code et pourtant tout était très calme. Il s'est passé aussi fait de chose, c'est que le député et chef du parti Québec solidaire, troisième parti à l'Assemblée nationale, s'est fait arrêter, menotté, parce qu'il manifestait. Voilà ce que devient mon cher Québec.
Et voilà Amir Kadir que vous avez entendu dans notre émission de lundi. Eh bien, ce député du parti Québec solidaire a été donc arrêté hier à Montréal lors d'une manifestation avec 64 autres personnes. Et au titre de la fameuse loi 78, la loi Matraque. Alors il a été libéré depuis, avec une contravention, lui et les autres, et les 64 autres, une contravention de 500 dollars pour avoir contrevenu à l'article 500, etc., etc. Voilà comment ça se passe. Alors, article, effectivement, de la sécurité routière. Voilà comment ça se passe à Montréal en ce moment, et on voit que le combat n'est pas terminé. Autre chose, la fête de leur défaite, c'est ce soir à 19h, dès 19h, la Bourse du Travail, à Paris, 3 rue du Château d'Eau, métro République, avec l'équipe de Fakir, avec l'équipe de la Bassie J'y suis, pour fêter l'abandon par Casino des poursuites à l'encontre de Fakir et de là-bas, si j'y suis. Ce sera gay, il y aura de la musique, venez, c'est tout à l'heure à 19h. Et puis on retourne encore un petit coup à Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, tout le monde connaît Hénin-Beaumont, sauf que ça nous donne l'occasion, en tous les cas, ça a donné l'occasion à Antoine Chao et à Anaël Verzo de revenir sur une histoire que vous avez peut-être oubliée, l'histoire de Samsonite et l'histoire des patrons voyous, l'histoire des salariés de Samsonite qui ont poursuivi les patrons, qu'il y en a quelques-uns qui sont en prison, mais ils ne se sont pas limités à cela. Ces salariés, ils poursuivent les actionnaires et elles vont, parce que c'est essentiellement des dames, très bientôt, très probablement, partir aux États-Unis, à Boston, pour suivre les grands méchants actionnaires. C'est une histoire formidable, emblématique, et voilà à quoi sert le match terrible entre FN et Front de Gauche, et bien de l'occasion de revenir sur ces histoires, ou plutôt de suivre cette histoire qui dure depuis plusieurs années, mais qui connaît des rebondissements récents, puisqu'il y a eu des condamnations, et ce qui donne raison à l'idée que, ben voilà, on perd pas toujours, les ouvrières tiennent bon. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous les auditeurs modestes et géniaux du Tarn et environ. Le jeudi 7 juin à 20h30, chez Marco, le café repère d'Alban, il sera question de mieux communiquer. Comment améliorer nos relations personnelles ou sociales et autres? Comment éviter les manipulations des techniques de communication? Tout cela, nous le verrons après un petit exposé de Jean-Jacques Samuel, formateur consultant en approche pour la transformation constructive des conflits. N'oubliez pas, le jeudi 7 juin à 20h30, au Café Repère d'Alban, chez Marco.
Bonjour Daniel et toute l'équipe. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le 30 novembre 2010, tu passais notre message, la coordination aux Îles-de-France. On appelait à assister le soir même au conseil de la communauté d'Agglo Ouest Ensemble, qui regroupe 9 villes à l'est de Paris, pour 400 000 habitants quand même. Pourquoi? Parce que malgré leur belle promesse de revenir à une gestion publique de l'eau, nos élus socialistes et même communistes, Bobigny et le Pré Saint-Gervais, ont voté avec la droite pour repartir avec le CEDIF et donc Veolia pour 12 ans. Ta diffusion de notre message avait été entendue. Trop peut-être. Car un comité d'accueil d'une soixantaine de villes est visiblement en urgence pour assurer que ce vote scélérat ait bien lieu. Mais ces gros bras ont fait du zèle. Fouilles illégales, violences et surtout, ils ont refusé l'accès à certains citoyens. Et c'est là que ça devient exemplaire. On a saisi la justice qui vient de trancher. Puisque le public a été empêché d'assister à une séance publique, le vote est tout simplement annulé. La paranoïa du PS du 93 et son empressement à signer en catimini et dans d'étranges conditions avec Veolia se retournent contre eux. Leur hold-up tombe à l'eau. Espérons que la gauche de Seine-Saint-Denis se ressaisisse et organise enfin une large consultation des habitants concernés, conclue par un référendum local. C'est Xavier de Bondy.
Nous ne sommes pas des pions. On était là pour travailler, on faisait marcher l'entreprise et tout. Les actionnaires, ils en veulent toujours plus et tout. Sachant combien ils ont fait de bénéfices, Et peu de temps après, on les licencie. Donc ça fait mal quand même.
Après la coquerie de Drocourt et Metal Europe, c'est au tour de Sublistatic et d'Energie Plast de fermer. Autant de pertes d'emplois pour le bassin d'Hénin-Beaumont.
Samsonite, le groupe Samsonite, a été acheté par Bain Capital en 2004 pour un tout petit peu plus de 10 millions de dollars. Et Bain Capital a revendu le groupe Samsonite en 2007 pour près de 1,8 milliard de dollars.
Bonjour.
Bonjour.
Pourquoi qui est venu Pierre Mélenchon?
Là, pour soutenir les salariés.
Ouais.
Coucou.
J'ai été voté, hein. Blanc. L'avenir est sombre, hein.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Antoine Chao et Anaël Verzo, Hénin-Beaumont, valise et patron voyou.
Flight number 2, arriving from New York.
Les poireaux, des ratatouilles. Des bons choux-fleurs bretons. Allez, superbe choux-fleurs, là. Cadeau.
Pour nous, les jeunes, un travail, c'est ce que je demande le plus, un travail pour les jeunes. Ayant pas de travail pour l'instant, deux CAP, on dit que ça ouvre les portes, deux CAP, vente et logistique, c'est qu'ils demandent dans le coin, mais personne ne nous prend.
Vente et logistique.
Que j'ai passé à Salamine. Et pas de travail pour l'instant, j'ai postulé partout, j'ai fait des boîtes à intérim, Pôle emploi, mission locale, mais il n'y a rien qui bouge. Et au bout d'un an, même pour les jeunes, c'est un peu... C'est décourageant. Décourageant. Et en plus, on dit qu'on est tous motivés, mais à la fin, on se démotive. Ça, c'est vrai.
Vous avez quel âge ?
19 ans et demi.
Ça fait un an que vous cherchez du travail ?
Oui, exactement. Un an.
Et vous avez des frères et sœurs ?
Deux sœurs.
Elles ont trouvé du travail ou pas ?
Bah, la grande, non plus. Et ça bloque, parce que ça bloque.
Et donc, vous avez voté pour la première fois au présidentiel ?
Oui, exactement. La première fois. Et j'espère que ça bougera. Et il bougera, M. Mélenchon. Je suis sûr. Et là, c'est bien qu'il revient ici à Hénin pour se battre. Ça, c'est bien. Ça bougera. On a eu Sarkozy 5 ans. Lui, c'était les riches qui étaient les plus riches et les pauvres qui étaient les plus pauvres. Et il passera. Elle passera pour elle. Elle en battra.
Et voilà, revoilà l'accordéon d'Hénin-Beaumont. Nous revoilà avec Antoine et Anaël à Hénin-Beaumont, sur le marché d'Hénin-Beaumont, et aussi sur une histoire. C'est vraiment l'occasion de revenir sur la fameuse histoire des patrons voyous de Samsonite Hénin-Beaumont. Une histoire qui est très connue dans la région, dans le coin, peut-être un petit peu moins à l'échelle nationale, même s'il y a eu sur ce sujet des films, des documentaires, des articles nombreux pour une histoire aussi emblématique, pas si rare que ça, vous allez voir. Ça méritait peut-être un peu plus d'intérêt que ça n'en a eu, d'où notre... empressement à vous en parler à nouveau aujourd'hui à la faveur de la concentration médiatique sur cette région et sur cette ville. Vous vous souvenez quand même peut-être de cette histoire, comment en septembre 2005, Samsonite, c'est-à-dire les valises, la fabrique de valises qui se trouve là, cède son site à une société qui s'appelle Energie Plast. Le projet est de convertir l'usine. Après les bagages, les ouvriers produiront des panneaux solaires. Mais 18 mois plus tard, c'est la liquidation judiciaire. Il n'y a plus un sou dans la caisse. Les salariés sont licenciés avec les minima sociaux. Alors ça, c'est un coup classique. C'est pas Samsonite qui est une exception. Ça s'est fait très souvent, ça continue de se faire depuis 20 ou 25 ans. C'est un coup classique, c'est-à-dire que vous voulez fermer votre boîte et vous débarrasser de tous ces salariés qui parfois sont là depuis 15 ans, 20 ans, vous voulez vous en débarrasser. Mais si vous voulez vous en débarrasser comme ça, ben, il faut payer, faire un plan social, comme on dit, c'est-à-dire payer quand même quelques indemnités à ces encombrants. Alors vous avez une combine, vous faites racheter l'entreprise, vous vendez l'entreprise à quelqu'un qui que vous connaissez généralement, que vous connaissez même très très bien. Ça s'appelle une cession frauduleuse. Reprise 15 mois après, 18 mois après, ça dépend. La boîte est coulée, tombe en faillite. Et là, on peut virer le personnel sur des minima sociaux. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est surtout la collectivité qui les paye. Et bien voilà exactement ce qui est arrivé aux ouvriers et ouvrières de Samsonite. 200 et quelques, ils sont. Elles sont, parce que pour la plupart, ce sont des dames qui se sont retrouvées sur le carreau avec toutes les conséquences classiques, c'est-à-dire elles et leurs familles et tous ceux et celles qu'elles font vivre. On s'intéresse à ça pour essayer de comprendre d'où vient le vote, le fameux vote Front National. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elles se sont battues, la mairie les a aidées, elles se sont battues, elles ont trouvé des avocats combatifs, un avocat combatif qu'on va retrouver dans cette émission, et elles ont réussi quand même à faire condamner les patrons voyous. Ils sont deux au moins à avoir été condamnés, Jean-Jacques Aurel, le dirigeant de la boîte qui a repris Energy Place, 3 ans de prison ferme, dont 2 avec sursis, Jean-Michel Gouletker, 2 ans ferme, lui c'était pas son premier coup, c'est un récidiviste, déjà condamné, et quelques autres. Mais elles se sont pas limitées à ça, parce que ça, bon, ben voilà, c'est les coups classiques des patrons voyous. Patron prison, ça rime pas souvent, hein. Patron prison, ça rime pas souvent. Là, ça a rimé pour un coup. Mais elle continue, parce que derrière cette opération, il y a Samsonite. Et derrière Samsonite, il y a les actionnaires de Samsonite. Et où sont-ils, ces actionnaires, ces invisibles de la finance? Mais ils existent bel et bien. Ils existent aux États-Unis et... Eh bien, elles vont partir très probablement, très prochainement, aux États-Unis, à Boston exactement, pour poursuivre en justice devant les tribunaux américains les actionnaires qui sont les responsables de cette catastrophe sociale. C'est beaucoup de combats, c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup d'entêtement et c'est simplement un sens tout simple de la justice. Alors évidemment, c'est l'histoire compliquée avec du juridique, avec des tas de complications, mais sur l'essentiel, il s'agit simplement de licenciements, de vies foutues, cassées sur l'hôtel du profit, une fois de plus. Alors la question qu'on s'est posée, c'est que feront désormais ceux qui se présentent à nos suffrages, au suffrage des électeurs d'Hénin Beaumont, UMP, PS, Front National, Front de Gauche, etc. Que feront-ils? Que feraient-ils si une telle situation se représentait? Ce qui ne va pas manquer de se présenter, peut-être pas dans cette région, dans l'immédiat, mais en France, d'une façon générale. Donc voilà, nous utilisons l'occasion, le match FN-FG d'Hénin Beaumont, pour essayer d'élargir un peu plus le débat. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. Hénin Beaumont, valise et patron voyou.
Les salauds, chanson engagée. Une chanson contre les bourgeois qui crachent son venin à la face de la société. On va pas s'emmerder, non? Mon père est mort à la guerre, mon frère se tue au travail, et les salauds s'en moquent bien, que l'on crève comme les chiens. Les salauds, c'est à la sueur de notre front que les salauds gagnent leur pognon et ils nous aident pour faire ripaille. les copains de notre travail, les salauds, oui mais un jour on sera fort, et dans les villes et dans les ports, les hommes lèveront leurs poings, pour foutre sur la gueule des rupins, des salauds, alors ils vont envoyer leur police, mais comme on est plus nombreux, on va leur foutre sur la gueule. Et on va leur faire bouffer leur képi, parce que s'il y en a un qui a m'emmerdé, j'y fous ma guitare à travers la gueule. Alors merde, on va pas se faire emmerder par les flics, hein. Par ma gueule.
Alors c'est quoi la solution ici
La solution, on va faire mettre du travail pour les jeunes. Ah oui, manque de travail. Hein. C'est du boulot qu'il faut. C'est pas la NPE qui les met tous sur le marché, il n'y a rien à foutre.
Moi je nourris la Chine, moi.
Vous faites quoi alors? Vous vendez au marché ici?
J'achète tout chinois et je vais au marché. Voilà, pour nourrir les Chinois, madame, c'est vrai.
Vous vendez de la marchandise chinoise?
Ah ouais. Il n'y a rien d'autre à part chinois.
Il n'y a rien d'autre?
Rien d'autre. Ah, si on ne vend pas chinois, on ne vend rien.
Vous, vous vendez quoi?
Moi, je vends des montres. Moi, c'est moi le roi de la montre, dans le Nord-Pas-de-Calais. Moi, je suis chapeau la montre.
Chapeau la montre?
Ah, ouais, moi, ça m'appelle la chapeau la montre.
Ouais, parce que vous avez un chapeau en feutre noir.
Ah, voilà, un feutre noir en plus, voyez. Moi, je suis un Indre-et-Loire.
Indre-et-Loire?
Ah, le pays du soleil, le pays du bon vin.
Ouais.
Ah, un beau pays, l'Indre-et-Loire. Ah, elle est belle, la France. Hein.
Et vous êtes venu quand dans le Nord, alors?
Ouais, il y a 30 ans. C'est déjà plus facile, on travaille bien, bon, on travaillait bien.
Voilà, 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 le marché des Nains Beaumont, le marché le plus scruté, le plus labouré, le plus médiatisé de France, encore jusqu'à, bah, encore pour une semaine, jusqu'à la fin de cette semaine, peut-être jusqu'à l'autre semaine. Alors, vous vous souvenez, lors des épisodes précédents, on a entendu le point de vue du Front National, le point de vue du Front de Gauche. Il faut absolument équilibrer tout ça. Voici le point de vue du porte-parole de l'UMP lui-même.
Vous traquez pour qui, là?
Pour Jean Bagnac.
D'accord. Alors, c'est quelle partie?
Nous sommes un rassemblement Jean Bagnac en tant qu'indépendant. Et vous avez l'UMP qui a souhaité rejoindre le mouvement en disant on va essayer de faire un mouvement libéral, un mouvement pour calmer un peu tous ces, je dirais un peu ces effluves qui se passent sur le système illinois et toutes ces extrêmes.
Et qu'on dise qu'ici c'est les terres du Front National, bon, ça vous
non,
fait quoi?
Non, il n'y a pas de terres du Front National. Aujourd'hui c'est une région qui a énormément souffert. Je ne vois pas pourquoi le Front National a ses défauts. Je ne dis pas que le Front National n'est pas extrémé, mais à l'heure actuelle, elle a autant de qualité, peut-être sur certains dossiers, que pour en avoir M. Mélenchon. Mélenchon vient ici simplement pour se faire un coup publicitaire.
Et enfin, elle, non?
Bah, elle est déjà du coin pour l'instant.
Elle est du coin, ça veut dire quoi?
À l'heure actuelle, elle habitait déjà ici depuis une
période. Elle a été parachutée avant, c'est ça,
ouais. Bon, il y a quand même Briouat qui fait du travail, même si je ne soutiens absolument pas son mouvement. Ce Briouat fait un travail ici depuis maintenant, ça fait peut-être 15-20 ans. Jusqu'au Midi Libre qui vient du Sud-Ouest, c'est quand même formidable pour une petite ville comme Hénin. Si ça peut créer de l'emploi, c'est formidable.
C'est mais ça crée du débat, c'est quand même un débat intéressant à avoir, non ou pas? Ou alors
on
se cache derrière.
Je vous dis, même le cirque, même le cirque Zavata est intéressant à regarder.
Il faut un débat.
Le cirque Zavata.
Regardez la télé.
Le cirque Zavata est sur le parking d'Auchan en ce moment.
Voilà,
monsieur Ramdani.
Monsieur Ramdani, j'étais.
Alors pour vos confrères, ils disent que l'UMP est absente. Ce qui est totalement faux, je suis candidat.
Qui a dit ça?
Une fuyeur d'un journal La Croix.
Ah ouais.
C'est complètement erroné, dans la mesure où j'étais le candidat qui a été investi ici sur la 11e. Pour rappel et pour mémoire, j'étais aussi celui qui s'était présenté sous l'étiquette UMP en 2007, où j'avais fait 13. Jean Urbaniak, à cette occasion, lors de ses élections, il avait également fait 13. Pour 2012, j'ai été investi de nouveau dans cette circo. Mais voilà, j'ai fait un choix. Je me suis dit, nous, on n'est pas là pour nous servir de la circo, mais pour la servir. C'est toute la différence entre eux et nous. Moi, j'ai mis entre parenthèses mes ambitions personnelles. J'aurais pu profiter de ces élections encore une fois et de la présence des médias pour être sous la lumière. Mais pour moi, la préoccupation, c'est celle de la population et pas la mienne. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me mettre avec Jean Urbaniak comme son suppléant, parce que c'est la seule chance d'être présent au deuxième tour.
Donc vous êtes présenté comme un attelage modem UMP, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Donc voilà quoi, on se dit, on va essayer de présenter un ticket modem UMP pour tourner la page à la fois du socialisme et puis de ces deux extrêmes.
Pour vous, on parle des mêmes extrêmes entre le Front National et le Front de Gauche. C'est du même ordre.
Dans l'idéologie, effectivement, il y a des nuances. On ne veut pas dire que le Front de Gauche, c'est le Front National. Mais je veux dire, les solutions présentées, c'est des solutions extrémistes d'une part et de l'autre. Est-ce que vous pensez sincèrement que retourner à une France des années 50, comme le préconise Mme Le Pen en sortant de l'euro et en rétablissant des frontières, c'est un grand bond en arrière de 60 ans. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec les solutions de Mélenchon, celles de nationaliser, qui ont prouvé leur échec dans les anciens pays de l'Est en 89, tout s'est effondré, nous sortir des vieilles recettes du XXe siècle?
Non, mais là, il ne faut pas mettre la charrie avant les bœufs. Il n'y a pas eu de renationalisation dans les pays de l'Est. Il y avait une nationalisation.
Non, mais attendez, c'est ce qu'on préconise aussi. Quand on préconise de nationaliser les banques, écoutez, ce qu'il faut, c'est surtout trouver.
Donc vous, la crise financière, c'est pas un problème,
mais si
il faut continuer
un problème.
Comme ça.
Pas du tout, c'est un problème, mais il faut arrêter.
Il y a un problème avec les banques.
Il y a un problème avec les banques, mais je crois qu'on est dans un cadre de mondialisation et il faut arrêter de dire aux gens « nous allons sortir de la mondialisation ». Ça, c'est mentir encore aux gens, leur faire susciter des espoirs qui, lorsqu'elles seront déçues, vont nous donner des résultats encore plus grave que ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis plutôt un social-libéral qui dit, voilà, il y a le libéralisme doit s'accompagner aussi d'une dose de social. Je ne m'inscris pas dans un ultra-libéralisme sans se préoccuper, parce qu'ici, nous sommes dans une région ouvrière où des gens souffrent. On connaît bien, nous, la problématique de ce territoire. On sait que c'est le chômage, on sait que c'est la désespérance.
Il y a eu quand même un vote sanction contre le projet UMP.
Oh bah vous savez, il n'y a eu qu'1,5 million de voix de différence. Donc effectivement, vous avez raison, les Français ont choisi. De toute façon, c'est ça la démocratie. De toute façon, il y a des alternances. Il faut respecter le choix des Français. Il n'en demeure pas moins qu'on doit aussi défendre nos idées.
Voilà, je vais vous dire une chose des yeux dans les yeux. Contre vous, on fera tous bloc.
Vous nous expliquez que vous transformez un lance-flamme en extincteur. Vous êtes un faux ami.
Nous avons une divergence totale.
J'en suis encore bouleversé.
Vous la méritez, voyez-vous.
Vous êtes un peu Yvette Horner de la politique.
Faites pas la maline.
Quelle différence y a entre toi et moi?
Oui, c'est d'accord. Une belle pirouette, ça m'amuse.
Quelle différence y a entre toi et moi?
Vous servez strictement à rien. À rien, à rien.
Notre monnaie, nos frontières et notre Banque de France.
Quelle différence?
La retraite à 60 ans, les 35 heures, la fin de la peine de mort. Vous servez à rien, à part amener de la haine.
Ça vous choque?
Il y a un an et demi, le groupe américain Samsonite vend son usine du Nord à un certain Jean-Jacques Aurel.
France 3.
Rebaptisée Energy Place, l'entreprise est censée passer de la fabrication des bagages à celle des panneaux solaires.
13 mars 2007.
Mais 18 mois plus tard, l'usine n'a fabriqué aucun panneau solaire. Elle est en liquidation judiciaire, incapable de payer fournisseurs et salariés.
Monsieur Aurel n'a rien apporté au site. Aucun capitaux, aucune valeur ajoutée, aucune main-d'œuvre. À croire qu'il avait construit tout un plan qui amenait notre société à la liquidation.
En fait, les syndicats sont convaincus que Samsonite a vendu l'usine à un homme de paille chargé de liquider l'entreprise. Le but, économiser un plan social coûteux dans une usine créée il y a plus de 20 ans.
Voilà, bref résumé de l'histoire Samsonite, on va revenir dessus. Et là, on arrive à Avion, c'est le nom d'une petite ville proche d'Hénin-Beaumont, où nous retrouvons Brigitte Petit, qui a été ouvrière à Samsonite pendant 24 ans. C'est un des piliers du combat contre Samsonite, le repreneur Energieplast et les fonds d'investissement Bain Capital. Vous allez comprendre tout ça. Et elle nous attend chez elle. Elle raconte son parcours.
Brigitte, ce qui se passe, c'est que vous avez travaillé pendant très longtemps, pendant plus de 24 ans, vous m'aviez dit, dans l'entreprise Samsonite, à Hénin-Beaumont.
Oui, j'ai travaillé les 24 ans. La boîte a été ouverte 24 ans. J'ai travaillé 24 ans. Et bon, j'ai travaillé avant dans une autre entreprise, où là, j'avais été licenciée aussi. Et c'était un licenciement aussi un peu abusif. Mais c'était rien par rapport à ce licenciement-là que je viens d'avoir avec Samsonite, quoi. C'était rien du tout, quoi. C'était que vraiment un petit licenciement. Quand on y repense, c'était un petit licenciement par rapport à ce que je vis encore actuellement avec les repreneurs et puis avec Samsonite. Lorsque j'ai commencé chez Samsonite, donc ben, j'avais mon deuxième garçon qui avait 6 mois.
Ça, c'était en quelle année ?
En 84. Quand je suis arrivée chez Samsonite, j'étais piqueuse. Donc, piqueuse, on travaille sur des machines en coup, quoi, la machine. Puisque moi, mon métier avant, c'était dans la confection. Au démarrage, c'était pas beaucoup de valises, on faisait que des prestiges, donc les attachés caisses prestiges. Et on faisait beaucoup de souples, donc c'était beaucoup de femmes. Justement, c'est pour ça que c'était une usine qui avait une majorité de femmes. Puisque c'était beaucoup de machines pour piquer, tout ça. Au bout d'un moment que j'ai travaillé là, on m'a demandé pour être contrôleuse. Contrôleuse, c'est une personne qui contrôlait le bagage lorsqu'il était terminé pour voir s'il y avait un défaut. S'il y avait un défaut, on le redonnait pour le faire réparer. Donc c'était ça, c'était pas commander quelqu'un. Pas du tout.
C'était une promotion ou pas ?
Ah, c'était une promotion, puisqu'une contrôleuse gagnait plus qu'une piqueuse. Je ne peux pas dire qu'on avait des gros salaires, parce que c'était pas des... Et je ne peux pas dire non plus qu'on gagnait un peu plus que le SMIC. Mais après, avec les années, le SMIC augmentant et que nous, ça n'augmentait plus aussi vite, on est arrivé au SMIC, quoi.
Mais c'était les 3-8 ?
C'était les 3-8, oui. L'injection, c'était les 3-8. Donc, bon, ben... Mais bon, on y arrive. Hein, moi, on me demandait, ben, des fois, ben, comment tu fais ben, malgré que c'était une usine, j'aimais mon travail et c'était pas réellement une grosse corvée pour moi d'aller travailler chez Samsonite. Les produits étaient de plus en plus beaux, la qualité, il fallait toujours la finition, qu'elle soit nickel, tout ça. Donc, c'était toujours mettre en valeur quelque chose, quoi. Moi, pour moi, le travail chez Samsonite, c'était ça, c'était d'avoir une satisfaction au niveau de notre travail. Ils ont très bien su nous pousser à ressentir ça et... Je crois que c'est pour ça que ça a été très difficile d'être licenciée.
Allô ?
Merci.
Bonsoir.
On arrive en quelle année ? En 2005.
Les fonds d'investissement ont demandé aux personnes qui s'occupaient de Samsonite pour nous en France d'aider des repreneurs, parce que c'est pas, ils n'ont pas vendu, ils ont pas, ils ont aidé des repreneurs à normalement reprendre l'usine. Et effectivement, ils ont donné de l'argent à des repreneurs qui, eux, soi-disant, allaient nous faire du panneau solaire, mais qu'on n'a jamais vu. Et nous, l'entreprise a été liquidée, quoi, puisqu'il n'y avait plus du tout d'argent. Dans la caisse. On a occupé l'usine à partir de ce jour-là. Pour se battre, quoi, pour garder notre emploi, parce qu'on voulait garder notre emploi.
Vous êtes resté combien de temps alors à occuper l'usine ?
On a occupé 4 à 5 mois.
Ouais. Que des mois d'hiver ?
Que des mois d'hiver, ouais. Les mois les plus durs, ouais.
Elle continue à venir à l'usine chaque matin, comme avant.
France 3.
Leur entreprise est en liquidation judiciaire.
23 février 2007.
4 semaines que les ouvriers occupent les lieux et le temps comme ils peuvent.
8 heures comme ça, sans rien faire, c'est trop. On n'est pas habitué, hein. On a tout le temps fait de la production.
Il y a 2 ans, cette usine a été vendue par Samsonite à un sous-traitant. Mais depuis, les commandes sont rares. Les salaires ont mis beaucoup de temps à être payés. Toutes rêvent de reprendre le travail là où elles l'ont laissé. Mais les caisses sont vides, il n'y a pas de repreneurs. Dans ce Pas-de-Calais déjà sinistré, c'est une usine de plus qui risque de fermer.
Nous, aujourd'hui, on continue notre association donc, pour se voir, pour s'entraider, et puis en même temps, pour pouvoir continuer notre combat. Donc,
Vous avez déposé plusieurs plaintes. Une première plainte contre Samsonite, contre aussi les nouveaux repreneurs, Energy Plast. Et vous avez déposé en 2010 une autre plainte contre le fonds de pension
aux États-Unis,
qui s'appelle Bain Capital.
Oui. C'est des actionnaires de Samsonite. Donc, c'est eux qui prennent tous les gros bénéfices et puis qui licencient les gens pour partir dans d'autres pays où là, ils ramassent encore plus d'argent sur le dos des pauvres ouvriers.
Ouais, vous savez un truc, j'ai regardé dans un article du Monde Diplomatique qui date du 9 mars 2012 et qui s'appelle « Mitt Romney mène sans enthousiasme les primaires républicaines ». Et pourquoi c'est un rapport avec le fonds de pension que vous attaquez? Parce que Mitt Romney, donc, qui est candidat aux primaires républicaines pour les élections présidentielles aux États-Unis, il est le fondateur et il a été le directeur de 1984 à 1999 du fonds d'investissement Bain Capital que vous attaquez. Et il se trouve que ce monsieur, pendant toutes ces années, donc de 1984 à 1999, il a gagné plus de 200 millions de dollars, soit plus de 6 400 $ par heure, grâce à son fonds de pension Bain Capital.
Grâce à nous.
Voilà, ce monsieur s'est enrichi.
Oui, je sais, je suis au courant qu'il se présentait aux élections. Et c'est une personne qui a su empocher de l'argent sur le dos des ouvriers. Maintenant, on va se présenter pour être président. Vous n'allez pas me faire croire que lui va donner un pouvoir aux ouvriers. Non. Non.
Pour le procès face au fonds de pension,
on attend dès qu'il y aura une date. On fonce là-bas.
Vous allez aller là-bas?
Ah oui, on est en train de tout mettre en place pour partir.
L'usine, il reste quelque chose ou pas?
Non, l'usine n'a plus rien. Vous avez l'impression que ça a été un truc criminel, quoi. Parce que nous, on s'est battus pour garder notre entreprise dans un état impeccable. Tout était nickel lorsqu'on est parti. Il y a eu le feu.
Plusieurs fois,
ils ont mis le feu. Il y a plus, tout a été arraché. J'y suis retournée la semaine dernière. Vous avez l'impression qu'il y a eu la guerre. Tout est arraché. Ça n'a pas été gardé, donc. Tout le monde peut rentrer, ça a été, tout est cassé, que ce soit la maison du concierge, que ce soit l'entreprise, que ce soit notre local syndical. Tout a été pillé, tout a été brûlé, cassé. Il y a des monts de gravier, des monts de terre, c'est horrible à voir.
Ils ont passé 24 années là. Ça c'est trop.
Pour moi, c'est dur. Quoi. Puis, j'essaye toujours de ne pas montrer, mais là, aujourd'hui.
Comment ça va par chez toi? T'as ramassé ce que t'as cassé. Pour cet hiver, ça ira le bois. Et ta plaie s'est-elle effacée? Fais gaffe à pas rester tout seul. Dans ta tête, les nuits sont pas sûres. Si le sol s'effondre, faut que tu gueules. Faut plus que ça pleure sur ta figure. s'est assis à côté de nous. Ça y est, c'est la fin de la journée. Il voudrait gueuler, rendez-vous. Ses soucis, on va les scier. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse. Dehors, t'as vu, ça bastonne sec. Y en a à dire que c'est la vie. Ben on la vivra, pas vrai mec? Ou bien t'as toujours plus d'avis? On se le repartage ce banc. On se le reconte ces étoiles. On se les repulvérise ces moments. On se le retisse ces voiles. Sûr qu'on s'est toujours bien menti. Et pourquoi qu'on changerait maintenant? Cogne-moi le front, mon ami. Si ça claque, on est corps vivant. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse.
Ces victoires ne représentent pas grand-chose au regard du désastre social et des milliers de licenciements en cours. Ainsi s'exprime Fiodor Rylov, qui est un avocat, et l'avocat de ces ouvriers salariés de Samsonite. Il est avocat au barreau de Paris, avocat de la CGT et avocat des salariés de RFI, de Goodyear à Amiens, de Kodak à Chalon-sur-Saône. Vous voyez qu'il est sur tous les fronts du social en France. Vous avez compris que Samsonite, on l'a dit, mais il faut quand même le répéter, c'est pas la seule histoire et ça pas la seule affaire, sauf que là on est à côté d'Hénin Beaumont et ça vaut quand même la peine de revenir sur cette histoire. Fiodor Rylov.
Maître Fiodor Rylov,
oui.
Vous nous dites le fait d'attaquer ce fonds d'investissement, Bain Capital, c'est une première.
Dans la lutte des classes à l'échelle internationale, oui. Nous avons affaire à un fonds d'investissement dont le but, dont la raison d'être, est d'acheter des sociétés, des groupes, pour les revendre le plus rapidement possible en réalisant la plus-value la plus importante possible. Et le fonds d'investissement Bain Capital, dans l'affaire qui nous intéresse, a effectivement réalisé une bascule absolument incroyable, puisque Samsonite, le groupe Samsonite, a été acheté par Bain Capital en 2004 pour un tout petit peu plus de 10 millions de dollars et Bain Capital a revendu le groupe Samsonite en 2007 pour près de 1,8 milliard de dollars. Dans l'intervalle, l'usine d'Hénin Beaumont a été ruinée et tous ses salariés licenciés. Alors, l'usine d'Hénin Beaumont, c'est l'une des usines du groupe Samsonite. Hein. Samsonite, c'est le numéro 1 mondial des bagages. C'est donc un groupe qui a beaucoup d'usines et beaucoup de salariés. Or, le groupe Samsonite a fait, à la fin de l'année 2006, un résultat net de 70 millions de dollars. Si l'usine avait été fermée par Samsonite, la comptabilité de Samsonite tombait dans le négatif. C'est au moins 30 millions, 40 millions de dollars de déficit que Samsonite aurait affiché à la fin de son exercice 2006. Il n'était pas possible pour Bain Capital de vendre son groupe Samsonite pour 1,8 milliard de dollars si ce groupe avait affiché un déficit de 30 ou 40 millions de dollars à l'époque. L'usine d'Hénin Beaumont était sortie du groupe Samsonite, confiée à des repreneurs dont la mission était de fermer l'usine en provoquant sa faillite et de licencier la totalité du personnel aux frais de l'assurance garantie des salaires, parce qu'en France, quand une société est en faillite et que tout son personnel est licencié, les frais de licenciement sont prises en charge par la collectivité, par cette structure que l'on appelle l'assurance garantie des salaires. Et les repreneurs, de leur côté, en récompense de ce service rendu à Samsonite, à l'actionnaire de Samsonite, avaient reçu avec l'usine plusieurs millions de dollars sur lesquels ils ont pu se payer et se payer très généreusement. Ce n'est pas par l'action judiciaire que l'on va renverser le capitalisme et qu'on va changer de société. Mais compte tenu du fait que dans le rapport de force international qui nous est imposé, nous avons besoin d'aller toucher l'adversaire, la passerelle judiciaire est, je dirais, un début de commencement d'une internationalisation de la lutte des classes. Il faut commencer à élargir l'échelle du combat.
Alors voilà l'analyse et l'approche de cet avocat singulier, c'est vrai. Et maintenant, ce qui nous intéresse, puisque nous allons voter dimanche, ce dimanche et le dimanche suivant, c'est que feront nos élus, que feront nos députés, au cas où des choses comme ça se produiraient, ce qui ne va pas tarder. On le sait bien, il y a toute une succession de ce qu'on appelle odieusement plans sociaux qui nous attendent dans les semaines et mois qui viennent. Alors, qu'ont-ils fait ces partis politiques, PS, FN, Front de Gauche, UMP, etc., qu'ont-ils fait et que feraient-ils si une situation comme ça se reproduisait? Telle est la question que nous leur avons posée successivement.
Pierre Ferrari, vous êtes membre du Parti Socialiste.
Oui, je l'ai été en tout cas durant de nombreuses années. J'étais secrétaire national du mouvement des jeunes socialistes aux inégalités sociales.
Pourriez-vous nous dire qu'a fait le Parti Socialiste au moment de la fermeture de Samsonite à Hénin-Beaumont ?
Écoutez, on a essayé. Les lois en vigueur à l'époque permettaient pas aux partis politiques de proposer de nouveaux emplois ou des plans de reconversion directement.
Les anciens ouvriers de Samsonite ne se sentent pas très soutenus en fait par le Parti Socialiste. Comment est-ce que vous expliquez que le Parti Socialiste n'ait pas davantage agi contre la fermeture de l'usine de Samsonite à Hénin-Beaumont ?
Vous savez, au-delà des partis politiques, ce qui compte, c'est les hommes. Et les hommes qui représentent ces partis politiques. Et peut-être que les hommes en présence à l'époque à Hénin-Beaumont et sur le territoire n'ont pas été à la hauteur des enjeux, n'ont pas été à la hauteur de la difficulté et n'ont pas compris la détresse des gens. Et c'est tout à fait légitimement qu'aujourd'hui les salariés, les ex-salariés de Samsonite, ont été amenés à se poser des questions et qu'ils sachent que je les comprends.
Maintenant que François Hollande est président de la République, d'après vous, que peut faire le Parti Socialiste aujourd'hui dans une situation telle que l'a été Samsonite à Hénin-Beaumont ?
Bon, depuis l'élection de François Hollande, les choses ont été clairement annoncées au cours de sa campagne. L'objectif est clair. Il faut aujourd'hui mettre un terme aux pratiques inacceptables de certains patrons voyous. Il est temps de défendre les salariés et les vrais entrepreneurs. Donc il y a plusieurs propositions qui avaient été faites et engagements qui ont été pris par François Hollande au cours de la campagne. Le premier, c'est que le coût de licenciement doit être plus cher pour les entreprises qui versent des dividendes ou qui rachètent des actions. Ça, c'est le premier point. Ensuite, doit être instaurée et légiférée au plus vite une obligation de remboursement préalable des aides publiques perçues 5 ans avant toute ouverture de procédure de licenciement. Voilà les deux mesures principales, à mon avis, qui amèneront certains patrons, pas tous encore, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font bien leur travail, mais certains patrons à réfléchir à deux fois avant de licencier leurs salariés, notamment quand ces derniers ont perçu évidemment des aides publiques.
Alors là, on parle des patrons. Dans le cas de Samsonite, il y avait aussi une responsabilité importante des fonds d'investissement, dont Bain Capital, qui possédait à l'époque 80% du groupe Samsonite.
Tout à fait.
Que dites-vous sur la responsabilité, en règle générale, des fonds d'investissement dans certains cas de licenciement, comme ça a été le cas à Samsonite ?
Leur responsabilité est engagée, donc ils doivent être partie prenante au niveau juridique. C'est pour ça que le Parti Socialiste et François Hollande donnera la possibilité aux salariés de saisir le tribunal de grande instance afin de prendre des mesures nécessaires, y compris la mise sous tutelle. Et évidemment, ça concerne évidemment ces fonds de placement. L'essentiel pour moi, dans une commune comme Hénin-Beaumont, c'est qu'on puisse enfin défendre les salariés, à nous de légiférer et de prendre des mesures qui ne permettent plus à ces patrons voyous de traiter de cette manière-là et de bafouer, comme ça a été fait, nos salariés en souffrance sur notre territoire et dans le bassin minier. Allô ?
Oui, allô, bonjour, Cibriois ?
Oui.
J'aurais aimé savoir, si votre parti, le Front National, l'emportait aux élections législatives, que feriez-vous contre les licenciements massifs, contre les usines qui ferment à la demande des fonds d'investissement ?
Dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, eh bien, nous instaurons un protectionnisme, parce qu'il est insoutenable. Pour nous, il est vraiment intolérable que des entreprises, parce qu'elles sont dans un monde qui est gouverné par la loi de la jungle, et bien des entreprises dirigées par des actionnaires qui regroupent des fonds de pension divers, et bien puissent délocaliser ou directement licencier sans réel fondement. Donc voilà, et je pense qu'il faut mettre un terme à l'Europe de Bruxelles, parce que l'Europe de Bruxelles, c'est la loi de la jungle.
Tous ensemble, ouais. Laurence Savage, du Front de Gauche. Si jamais le Front de Gauche l'emportait aux élections législatives,
Oui. Que
feriez-vous contre les licenciements massifs, contre les fermetures d'usines fermées à la demande des fonds d'investissement?
Déjà, il y aurait une loi... On remettrait au goût du jour la loi contre les licenciements boursiers qui n'a pas été votée au Sénat à 4 voix près. Déjà, première chose, les licenciements boursiers. Cette loi contre les licenciements boursiers, on la ferait passer à l'Assemblée nationale et on la referait passer au Sénat. Et on mettrait en place aussi un droit de préemption des entreprises, des salariés sur les entreprises, justement pour empêcher ces licenciements. Donc ce qui appellerait à la désobéissance européenne.
Sortir de l'Europe ?
Non, pas sortir de l'Europe. Désobéir à l'Europe. C'est pas la même chose, parce qu'on n'a jamais dit qu'on voulait sortir de l'Europe, on a toujours dit qu'on voulait une autre Europe. On voulait changer d'Europe. C'est pas la même chose que sortir de l'Europe. On remettra en cause totalement le droit de concurrence libre et non faussée. Et les droits et les salariés auraient de nouveaux droits dans les entreprises aussi. C'est-à-dire qu'ils auraient le droit d'intervenir dans la stratégie économique de l'entreprise.
Hélène Beaumont, valise et patron voyous, reportage Antoine Chaouet, Anaël Verzo, à Hélène Beaumont et à Avion. Merci à Brigitte Petit, René Pontieux, Fyodor Rilov. Merci aussi à Bernard Carton. Demain soir, ne manquez pas l'inauguration justement du premier café repère des Nains Beaumont à La Belle Anglaise, place Wagon. Je ne sais pas si on dit wagon ou wagon. Bernard vous y accueillera à partir de 19h30 à Hénin Beaumont. Et puis tout à l'heure, à 19h, la fête de l'ordre des fêtes à la Bourse du Travail à Paris pour fêter avec nous l'abandon des poursuites de Jean-Charles Naouri, PDG de Casino, contre le journal Fakir et contre La Basse et J'y suis. On ne perd pas toujours, c'est l'occasion de fêter cette victoire et bien d'autres, des petites et des grandes de 1789 à 1936. Rien que ça. Et d'en préparer de nouvelles, c'est à 19h, je l'ai dit, 3 rue du Château d'Eau, Paris 10e, métro République. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur le site là-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Et vous avez aussi sur là-bas.org l'intégrale d'entretiens réalisés à Montréal avec l'ami Guy Ventil, de chercheur et de sociologue de Montréal, ceci à destination des carrés rouges de Montréal et de tous ceux qui s'intéressent et qui sont dans le mouvement là-bas, qui nous ont demandé l'intégrale de ces entretiens. Vous pouvez les trouver donc, amis québécois, sur le site là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Michel Bézikian et Pauline Laverdure, Bertrand Chemeton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez et Grigory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Raoul Nettoyeur, j'écoute.
Elle est tombée. Elle est morte. Aidez-moi.
Calmez-vous. Elle pèse combien?
Oh, je ne sais pas, mais c'est un gros modèle. Elle n'était plus toute jeune, et entre nous, qu'est-ce qu'elle m'énervait. Avec elle, pas moyen de regarder un programme TV en entier.
Je connais ça.
Au moins, je vais pouvoir m'en acheter une nouvelle.
Une nouvelle quoi?
Ben, télé. Et ma télé, alors?
Avec Écosystème, il y a plus simple pour se débarrasser d'un appareil électrique. Tous les points de collecte et les solutions de recyclage sur écosystème.fr.
Écosystème.
Le plus simple, c'est de recycler.
France Inter présente The Descendants avec George Clooney en DVD et Blu-ray.
Mes amis, j'imagine qu'habiter Hawaï, c'est vivre au paradis.
Le portrait drôle et émouvant d'un homme déstabilisé.
Nos familles ne sont pas moins névrosées et nos peines ne sont pas moins douloureuses.
The Descendants d'Alexander Payne, récompensé par un Oscar et deux Golden Globes, un DVD France Inter.
France Inter, partenaire du Festival des Vieilles Charrues à Carhaix. Du 19 au 22 juillet, les super-héros débarquent aux Vieilles Charrues. Pour la 21e édition du festival, retrouvez une programmation exceptionnelle. Avec Bob Dylan, Sting, Portishead, The Cure, Gossip, Garbage. Mais aussi TFN, Metronomy, Kezia Jones, Amadou et Mariam. Le festival des Vieilles Charrues à Carhaix. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter et Château de Versailles Spectacle présentent les grandes eaux nocturnes tous les samedis du 16 juin au 1er septembre ainsi que le vendredi 7 septembre. Dans le jardin, la poésie d'une promenade mise en eau, en scène et en lumière, ponctuée de musique baroque et illuminée par un feu d'artifice final. Retrouvez les grandes eaux nocturnes de Versailles dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Voilà, puis je rappelle encore une fois les deux entretiens avec Marcos Ancelovici et Eric Pinault qui sont sur labas.org et que vous pouvez écouter en intégralité. Il est 16h sur Inter. Vous l'avez entendu, on se retrouve demain à 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
François Hollande dans le Calvados cet après-midi. Le président participe aux cérémonies de commémoration du 68e anniversaire du débarquement. Il s'est rendu tout d'abord au cimetière britannique de Ranville à l'invitation des Britanniques qu'il administre. Il est attendu maintenant à Caen pour une visite du mémorial. Deux personnes sont en garde à vue cet après-midi du côté de Villeurbanne. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à l'agression samedi soir de trois jeunes juifs qui portaient la kippa. L'auteur principal présumé des faits est lui toujours en fuite. Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le séjour irrégulier d'un étranger ne peut suffire à son placement en garde à vue. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu aujourd'hui son avis sur le sujet. Avis qui doit maintenant être étudié par la chambre civile, cette fois de la Cour de cassation, qui doit ensuite rendre son arrêt. À l'étranger, le Parlement israélien a voté à une large majorité aujourd'hui la destruction d'habitations de colons en Cisjordanie. Les maisons avaient été construites sur des terres privées palestiniennes. Pour apaiser la colère des colons, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a proposé un plan alternatif, le transport des bâtiments sur un autre secteur et promis aussi de construire 300 nouveaux logements en Cisjordanie. Devenir journaliste, certains en rêvent. Le Monde a lancé aujourd'hui une académie pour apprendre pendant un an les bases de la profession. 68 jeunes de 18 à 25 ans vont être recrutés. Pas de conditions de diplôme. L'expérience débouchera pour les trois meilleurs sur un contrat de travail. Pour s'inscrire, academy.lemonde.fr. Fin des candidatures le 15 juillet prochain. Ceux qui iront au Brésil voir les matchs de foot du Mondial en 2014 pourront boire de la bière dans les stades. Qu'on se le dise, Dilma Rousseff, la présidente du Brésil, a promulgué la loi aujourd'hui à la demande de la Fédération internationale de foot. Et ce, malgré une longue bataille entre députés et sénateurs brésiliens. Il s'agit là d'une exception à la loi générale qui interdit au Brésil la vente de bière dans tous les stades pendant les matchs de foot. À Roland-Garros, pas question de bière en une heure, tout peut aller très vite. Maria Sharapova a donc été expéditive cet après-midi. Victoire en 2-7 pour la Russe sur Kanepi et qualification donc pour ses premières demi-finales. Dans l'autre quart, Shvedova a remporté le premier set face à Kvitova. Le match n'est pas encore terminé. Mais maintenant, place au quart de finale homme. Et là, c'est 100% espagnol. Almagro, Nadal, Olivier Poujade.
Oui, les deux hommes sont sur le courant. On va quand même donner le score de Maria Sharapova. 6-2, 6-3 face à Kaya Kanepi. Et 1-7 partout entre Shvedova et Kvitova sur le court Suzanne Lenglen actuellement. 5 jeux à 4 pour la Tchèque Kvitova face à la Kazakh Shvedova. L'homme de tous les records est effectivement sur le court central actuellement. Raphaël Nadal, numéro 2 mondial. 50 matchs ici à Roland-Garros depuis 2005 et sa première victoire dans ce tournoi. 50 matchs et une seule défaite. C'était en 2009 en huitième de finale face à Söderling. Depuis, Nadal a tout gagné. Il a remporté 6 titres ici. Il en vise un 7e et il s'avance vers ce quart de finale sans avoir perdu un seul set. C'est le cas également de Nicolas Nicolas Almagro, son adversaire du jour, deux fois quart de finaliste ici, mais deux fois battu en quart de finale par Rafael Nadal. Le match a commencé depuis maintenant 16 minutes exactement et deux jeux partout entre les deux hommes.
Merci Olivier Poujade, en direct de Roland-Garros. On vous retrouve tout à l'heure pour la suite du match à 17h. Pour l'instant sur France Inter, 16h03. Et c'est avec Frédéric Lodéon que vous avez rendez-vous. C'est à vous Frédéric.
Merci Laetitia Gaillet. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, oyez, oyez, nous serons demain à Lille, vous le savez peut-être, demain, parce qu'il y a ce magnifique festival de piano que Jean-Claude Casadesu a voulu, et puis qu'il maintient depuis des années, le Lille Piano, avec un S entre parenthèses, festival, qui débute vendredi, et nous, on sera là, on sera à 16h au foyer de l'Opéra de Lille, avec Jean-Claude Casadesu lui-même, avec Claire-Marie Leguet en deuxième partie, Jake Gottlieb, très beau pianiste, et puis un joli programme aussi. Et ça tombe bien parce que dans le coup de cœur avec concert classique, vous savez, régulièrement, avec ce site internet, nous proposons une interview qu'on peut évidemment trouver sur concert classique. Et puis, il y a aussi évidemment de la musique à entendre. Alors par exemple, voici Romain Descharmes qui se range parmi les grandes personnalités du piano français. Il a 32 ans, il est né à Nancy. Il a déjà à son actif deux très beaux enregistrements de Brahms et de Ravel. Et il sera justement au Lille Piano Festival samedi 9 juin pour jouer une œuvre assez peu connue de Marie Jaël, le premier concerto. C'est une femme virtuose et compositeur aussi, compositrice, comme vous voudrez. Et elle était, paraît-il, admirée par Franz Liszt lui-même, par Camille Saint-Saëns aussi. Et donc on pourra entendre notre Romain Descharmes dans ce piano, dans ce concerto de piano. Une œuvre à découvrir absolument. Et avec, il y aura Jean-Claude Pentier dans une pièce de Gabriel Fauré. Voici tout de suite Romain Descharmes, coup de cœur, donc concert classique.com et France Inter dans la balade en sol mineur tirée des 6 morceaux pour piano opus 118 de Johannes Brahms. Thank you. Balade en sol mineur tirée des 6 morceaux pour piano plus 118 de Johannes Brahms par Romain Descharmes. Donc si vous allez sur concertclassique.com, vous verrez le piano éclectique, ne pas dire trop vite, pas électrique, mais enfin